Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission intitulée « Miscellanée ». Miscellanée, quel mot merveilleux. Toujours au féminin, toujours au pluriel. Des miscellanées en littérature, c'est un ensemble de textes divers n'ayant pas spécialement de rapport entre eux, ni même d'ordre précis. Je pense par exemple aux célèbres miscellanées de Monsieur Schott, de Ben Schott, une collection de petits riens essentiels, comme dit l'auteur. Tout de même 2 millions d'exemplaires vendus, et l'on peut en feuilletant y trouver aussi bien un article sur la longueur des lacets qu'un autre sur l'échelle du piquant des piments. Alors des miscellanées musicales, qu'est-ce que cela peut bien donner? Eh bien je vous propose d'attaquer tout de suite avec une délicieuse petite polka pour piccolo, tout en sourire et en détente, sans le moindre nuage à l'horizon. Thank you. D'Eugène Pierre Damaré, nous écoutions Pizzicato, une polka pour piccolo et cordes, plus 426 s'il vous plaît, interprétée au piccolo par Jean-Louis Beaumadier et aux cordes par l'ensemble instrumental La Folia. C'est un extrait de leur très récent album Exposition Universelle, paru en juin dernier. Alors ce qui est amusant, c'est de penser que le piccolo a connu une véritable vogue en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est-à-dire pendant tout ce que l'on appelle la Belle Époque, vous savez, cette période qui va de la chute de Napoléon III à la Première Guerre mondiale. Quant à Eugène Pierre Damaré, je vous le présente, c'est un compositeur basque, né à Bayonne en 1840, mort à l'âge de 78 ans à Courbevoie. Il poursuit une triple carrière de flûtiste, de compositeur et de chef d'orchestre. Comme chef, il a longtemps dirigé l'orchestre des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Comme compositeur, on lui doit essentiellement de la musique légère, c'est-à-dire des danses, polka, mazurka et autres polonaises, ou des morceaux de genre aux noms évocateurs comme « Dans un hamac »,« Les bains de mer », »,« La danse des grillons » ou encore « Miaou, miaou », tout cela joué notamment dans les kiosques ou les casinos comme Deauville, Enghien ou Vichy. Comme flûtiste, il est longtemps piccolo solo de l'orchestre L'Amoureux, instrument pour lequel il écrit une quarantaine de pièces, dont le très célèbre Merle Blanc, si célèbre qu'il sera adapté à plein d'autres instruments. Tenez, je pense par exemple à la version pour accordéon signée André Verschuren. Alors, toute cette musique légère, ça peut poser une question. Quand j'étais jeune, on nous apprenait à distinguer l'art du divertissement. Donc là, on est dans la musique légère, on est plutôt dans le divertissement. Oui, mais la question est plus délicate qu'il n'y paraît. Tenez par exemple, chez les grands classiques, Mozart, Beethoven, Schubert, le troisième mouvement de leur symphonie, de leur quatuor, de leur sonate, c'est souvent un menuet, n'est-ce pas ? Un menuet, c'est une danse, donc plutôt une pièce de divertissement. Et que dire du scherzo ? Scherzo, scherzando en italien, en s'amusant, une pièce plutôt légère, une pièce d'humour. Là aussi, sommes-nous dans l'art ou dans le divertissement ? Tenez, je vous propose de vous en faire vous-même une idée en écoutant le scherzo du second trio en mi bémol opus 100 de Schubert. Vous allez voir, le caractère est très plaisant, très détendu, et en même temps, la pièce cache un certain nombre de raffinements. Pour la première partie, un canon perpétuel entre le piano et les cordes. Pour la seconde partie, de caractère plus robuste, un certain mystère, des ruptures et même d'étonnantes surprises.
Thank you.
Nous écoutions le scherzo, donc le troisième mouvement du second trio en mi bémol opus 100 de Schubert, excellemment interprété par le trio Busch. Et de Schubert, nous passons maintenant à Lully avec un extrait d'Armide. Armide, c'est la dernière tragédie lyrique achevée par Lully en 1686, considérée comme son chef-d'œuvre. Et alors, il y a un passage dans l'Armide qui est tout à fait extraordinaire, un passage purement instrumental que l'on nomme souvent l'ère des sourdines. C'est au second acte, au moment où le chevalier Renaud, envoûté par les charmes de la magicienne Armide, s'endort et qu'il est enchaîné avec des guirlandes de fleurs par des démons déguisés en nymphes, en bergers et en bergères. Alors j'essaye de m'imaginer la scène, je ne sais pas si j'aimerais être enchaîné avec des guirlandes de fleurs, mais ça ne doit pas être si mal que cela après tout. Enfin, tout ça pour vous dire que cette ère des sourdines a tellement frappé l'imagination des contemporains de Lully qu'on en a immédiatement réalisé un certain nombre de transcriptions instrumentales. Et je pense en particulier à la transcription pour clavier du claveciniste et compositeur d'Anglebert. Alors je vous propose de l'écouter sans plus tarder, non pas au clavecin mais au piano, puisque le pianiste israélien David Greilshammer vient de l'enregistrer pour son album Labyrinthe, et que c'est une interprétation que je trouve tellement réussie, souple, délicate, que je suis sûr qu'elle va vous séduire comme moi. L'infinie délicatesse du pianiste israélien David Greilshammer, un extrait de son album Labyrinthe. C'était donc une musique de Lully, le célèbre air des sourdines de sa tragédie Armide, mais transcrit pour clavier par d'Anglebert. Et nous restons avec Armide et Renaud, toujours aussi amoureux l'un de l'autre, mais cette fois-ci nous passons à l'opéra Armida de Salieri, un ouvrage écrit à l'âge de seulement 21 ans, l'un de ses premiers succès à Vienne, dont je vous propose d'écouter tout de suite le duo qui ouvre le deuxième acte, un dialogue féminin puisque le chevalier Renaud est également interprété par une voix de soprano, à l'époque évidemment un castrat. À noter qu'il s'agit du premier enregistrement mondial de ce bel ouvrage, une très belle production de Christophe Rousset et de ses talents lyriques. Le plaisir est précieux, il est léger. Sachons en faire usage. La vie est un passage qu'il faut semer de fleurs.
Thank you.
Nous écoutions dans le rôle d'Armide Lenecker Houghton et dans le rôle de Renaud Flori Valiquette, toutes deux accompagnées par les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est vraiment temps de réhabiliter Salieri, qui, rappelons-le, n'a jamais empoisonné Mozart, ni même développé la moindre jalousie à son égard. En revanche, il a composé plus de 40 opéras, dont l'extraordinaire Falstaff de 1799. Sans parler du fait que ce musicien très influent de la vie musicale viennoise a été excusé du peu le professeur de Beethoven, de Schubert, de Liszt, de Meyerbeer et même du dernier fils de Mozart. Place maintenant au Silicon Blues de Mason Bates, l'un des compositeurs américains les plus joués actuellement. Alors l'une des originalités de cette pièce, c'est qu'elle donne presque l'impression de faire entendre quatre instruments, le cor, le violon et le piano, mais également une sorte de percussion, puisque certaines cordes du piano ont été bloquées. Une corde bloquée, c'est-à-dire que si l'on pose un peu de pâte à fixe ou de gomme ou une sorte de scotch sur les cordes d'un piano, eh bien quand on joue cette corde, cela ne sonne plus du tout comme un piano, mais comme une sorte de percussion fantôme. D'une manière plus générale, si je dois parler du langage de Mason Bates, je parlerai d'un art consommé de l'accentuation décalée, de la couleur, de l'utilisation de courts motifs répétitifs qui font de cet Américain en quelque sorte le fils naturel de Steve Reich et de Stravinsky. Nous écoutions le Silicon Blues de Mason Bates, autrement dit le premier mouvement de son trio pour cor, violon et piano, Sarah Willis au cor, Kotowa Machida au violon et Philip Myers au piano. Nous passons maintenant à Hieronymus Winders, un polyphoniste flamand dont on ne sait à peu près rien, si ce n'est que ses œuvres datent du début du XVIe siècle. Sa pièce la plus connue est une magnifique lamentation à sept voix sur la mort de Josquin des Prés, « O mors inévitabilis ». C'est la grande tradition des tombeaux musicaux quand un groupe de compositeurs rendait hommage à un collègue illustre au moment de sa mort. Sur les sept voix entendues, deux prononcent le texte latin du Requiem, tandis que les cinq autres, également en latin, déplorent la disparition du maître. Ô mort inéluctable, mort amère, mort cruelle, quand tu as tué Josquin des Prés, tu nous as enlevé celui qui, par ses harmonies, a rendu gloire à l'Église. Qu'il repose en paix. Mort inéluctable, mort amère, mort cruelle, nous chantait l'ensemble Clément Jeannequin. Et c'est un peu ce que j'ai pensé quand j'ai appris un soir la mort du chef d'orchestre Patrick Davin, que je n'avais rencontré qu'une seule fois dans ma vie, à Strasbourg, pour un petit déjeuner mémorable, foisonnant et animé, qui avait commencé vers 8h du matin et s'était achevé presque à midi. Son dernier disque aura été consacré à un compositeur français peu connu mais très intéressant de la fin du 19e siècle, Léon Boëlman, un compositeur promis un brillant avenir, mais qu'une maladie pulmonaire fit mourir à 35 ans. Alors Léon Boëlman était né la même année que Debussy en 1862 et mort à la même année que Brahms en 1897. Alsacien français à la naissance, Léon Boëlman devient allemand à la chute du Second Empire en 1870. Ses parents l'envoient pourtant à Paris, étudier dans la célèbre école religieuse Niedermeyer, là où Gabriel Fauré avait fait ses études. Organiste de l'église Saint-Vincent de Paul à Paris, Léon Boëlman se fait tout d'abord connaître pour ses œuvres consacrées à son instrument, et je pense particulièrement à sa suite gothique, qui est encore aujourd'hui régulièrement jouée. Mais il écrit également de nombreuses pièces pour piano, pour voix ou pour orchestre, comme ce mouvement perpétuel pour cordes en ré mineur à la belle énergie. Thank you. C'était la troisième des quatre pièces brèves de Léon Boëlman, interprétée par les cordes de l'Orchestre symphonique de Mulhouse sous la direction de Patrick Davin. Alors, puisque nous en sommes au chapitre des cordes, je rappelle que jusqu'au milieu du XIXe siècle, presque tous les compositeurs jouaient non seulement du piano, mais également du violon. Je pense à Schubert, Bach, Mozart, Mendelssohn et bien sûr à Beethoven. Beethoven, dont je vous propose d'écouter maintenant un extrait de sa sonate pour violon et piano la plus populaire, la plus connue, la sonate Le Printemps. Alors attention, Le Printemps, c'est une appellation qui n'est pas de Beethoven, comme la plupart du temps chez Beethoven, vous savez, sonate au clair de lune, sonate pathétique, etc., etc. Non, c'est un surnom qui a été donné après sa mort, mais ce surnom, je l'aime bien, moi, parce que cette sonate, bien, elle est effectivement assez rayonnante, assez lumineuse, assez printanière. Je vous propose d'en écouter le scherzo, mais alors un scherzo qui n'a rien à voir avec celui de Schubert que nous avons écouté tout à l'heure, car celui-ci est incroyablement court, léger, spirituel, sans doute le scherzo le plus bref de toute l'histoire des scherzos. Les savoureux décalages rythmiques du violon ne sont d'ailleurs pas si faciles que ça à mettre en place, et le résultat n'est la plupart du temps pas très satisfaisant. Mais je vous ai trouvé une version impeccable, celle toute récente de la violoniste Isabelle Faust et du pianiste Alexander Melnikov. Le scherzo de la sonate pour violon et piano Le Printemps de Beethoven, interprété par Isabelle Faust au violon et Alexander Melnikov au piano. Place maintenant à l'orchestre, au grand orchestre symphonique. C'est vrai, nous n'en avons pas encore écouté depuis le début de cette émission. J'ai pensé à la deuxième symphonie de Tchaïkovski, avec un enregistrement très récent, magnifique, de l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, sous la direction du chef estonien Paavo Järvi. Dans cette symphonie, je vous propose le second mouvement, un mouvement que j'adore, un peu dans l'esprit de l'ouverture ou de la marche miniature du ballet Casse-Noisette. C'est-à-dire une orchestration très fine, très claire, très variée, au timbre très détaillé. Pour moi, on a presque une impression visuelle de voyage quand on écoute cette musique, car on pourrait imaginer un groupe qui viendrait de loin, se rapprocherait petit à petit pour s'éloigner à la toute fin. Thank you. C'était le magnifique deuxième mouvement de la deuxième symphonie de Tchaïkovski par l'orchestre de la Tonhalle de Zurich sous la direction de Paavo Järvi. Alors on appelle souvent cette symphonie « Symphonie Petite Russie », une allusion directe à l'Ukraine puisqu'un certain nombre de thèmes utilisés par Tchaïkovski sont des thèmes populaires ukrainiens authentiques. Voici qui m'amène tout naturellement à ma proposition suivante, puisque je vous propose de faire connaissance avec le dernier album de Dimitri Naïditch. Dimitri Naïditch, magnifique pianiste de jazz, justement né à Kiev, en Ukraine. Alors cet album s'intitule, à vous dirais-je, Mozart. C'est que Dimitri Naïditch, comme un certain nombre de ses collègues musiciens de jazz, aime bien jazzifier les œuvres classiques. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de partager de temps en temps la scène avec lui, et j'ai particulièrement apprécié son énergie et sa déconcertante facilité de contact avec le public. Son dernier album met donc en jazz une dizaine d'œuvres de Mozart, concertos, symphonies et fantaisies. Et d'une certaine manière, je dois dire que je me sens un peu le parrain de cet album, puisque je lui avais commandé deux des morceaux du disque pour mon émission La Boîte à Musique sur France 2 en 2012. Et maintenant, écoutons comment la suave mélodie du mouvement lent de la sonate en ut majeur dite facile devient un air syncopé de bossa nova. Thank you. étonnante bossa nova inspirée par le mouvement lent de la sonate en ut majeur de Mozart. Et en dehors du toucher de Dimitri Najdich, j'admire l'inventivité du jeune percussionniste Arthur Allard et la parfaite musicalité du contrebassiste Gilles Naturel. Voilà, c'était donc un extrait de l'album « À vous dirai-je Mozart » de Dimitri Najdich, et je signale aux amateurs que le concert de sortie de cet album est prévu le 13 septembre prochain au Théâtre de la Gaîté à Paris. Alors, pour terminer notre émission de la semaine, toujours à la jonction du classique et du jazz, voici une incroyable interprétation signée Miles Davis de la célèbre mélodie « Les filles de Cadix » du compositeur français Léo Delib. C'est un enregistrement de 1957, un extrait de l'album Miles Ahead, le premier album signé en collaboration avec Gil Evans. Et vous allez voir que la célèbre mélodie hispanisante devient avec Miles Davis plus langoureuse, plus ralentie, d'une sensualité merveilleusement capiteuse. Gil Evans et son orchestre, et bien sûr la célèbre trompette de Miles Davis, mort il y a tout juste 30 ans. C'était donc un arrangement jazz d'une mélodie de Delib, Les filles de Cadix, et ça se trouve dans une magnifique anthologie de 3 disques qui vient d'être publiée par Frémo. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Fricono. chef opérateur du son, Valérie Lavalard. À la semaine prochaine.